Rebelle Hebdo, le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà.
Salut à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute de Micro Rebelle Hebdo, magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà. Une émission enregistrée et diffusée en direct sur notre site microrebelle.fr. Émission également diffusée par nos amis de la FRANF, la Fédération des radios associatives du Nord de la France. Radio PFM à Arras, le vendredi à 20h, le samedi à 7h30 et le dimanche à 14h. Et par Radio Plus à Douvrin, le mardi à midi. Si vous voulez nous contacter, envoyez un courriel à contact@micro-rebelle.fr pour proposer des idées de reportage, transmettre des infos sur l'actualité ou simplement nous soutenir. On rappelle que l'enregistrement de cette émission est public comme toujours. N'hésitez pas à franchir les portes de notre studio à Liévin. Avec nous aujourd'hui, Thérèse Chiarello, présidente de l'association Colère du Présent. Bonjour.
Bonjour.
Et Pierre Rose, membre de nombreux collectifs que je n'énumérerai pas ici, dont Les Ébouriffés, Nous voulons des coquelicots, Ouyouyouy. Bon, on fera ton CV tout à l'heure. Salut Pierre.
Salut Luc.
Alors voilà, nous parlerons avec eux de l'actualité militante à venir, à la fois dense et enthousiasmante, notamment la randonnée des coquelicots, la journée de manifestation pour le vivant du 27 avril et le forum social. J'en profite pour faire un petit coucou aux autres qui sont habituellement présents lors de cette émission, Lucien, Aurélie et Jonathan, qui ont été retenus pour d'autres activités. Au programme aujourd'hui, une discussion avec nos invités, un peu de musique toujours libre, mais avant, une revue de presse et un agenda social par lequel nous allons tout de suite commencer. On commence cet agenda avec le mardi 23 avril et la projection de A Thousand Girls Like Me. C'est un documentaire coup de poing qui sera suivi d'un échange et c'est à l'initiative de l'Association des Femmes Solidaires pour la Paix et de Amnesty International. Ça se passe à 20h au cinéma Les Étoiles de Bruay-la-Buissière. La projection est proposée au tarif solidaire de 10 euros. Je vous fais le pitch. Sur les pentes des montagnes mauves de Kaboul, où les cerfs-volants tournoient au-dessus des bazars, où règnent les croyances religieuses, Katera, 23 ans, enceinte de son second enfant, brise le silence. Abusée par son père depuis son plus jeune âge, elle décide de prendre la parole. Ces quelques mots prononcés à la télévision devant des millions de téléspectateurs provoquent un séisme auprès des autorités politiques. Face à elle, c'est tout un pays qui se lève. Déterminée à faire valoir ses droits, elle saisit la justice pour se défendre et faire reconnaître son statut de victime. Comment porter plainte et être entendue ? Ce film coup de poing livre au jour le jour le combat d'une femme d'exception. Mercredi 24 avril, comprendre l'Europe, c'est un moment de formation collective selon les méthodes de l'éducation populaire pour comprendre l'Europe et appréhender les enjeux des élections européennes qui approchent. C'est une formation proposée par Paul Masson, ça se passe au centre Saint-Paul, rue Montpancher à Hénin-Beaumont, de 18h30 à 21h. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez contacter Sylvie Preux. Je vous donne son mail cmr62sylvie@orange.fr. Vous pouvez également lui téléphoner pour plus de renseignements. 06 13 19 36 46 06 13 19 36 46. Également le mardi 24 avril, sur les pas de Robespierre. C'est un ciné-sandwich à l'espace Ronnie Cooter de Grenay à 19h. Sur les pas de Robespierre, c'est la première fiction documentaire de Thomas Gallo, tout jeune réalisateur de 20 ans. La projection sera suivie d'un échange avec l'association Les Amis de Robespierre. Ce documentaire, sous forme de fiction, raconte l'excursion scolaire d'une classe de lycéens partie à la recherche de l'avocat arageois Maximilien Robespierre. Ils sont guidés pour cela par le président de l'association des Amis de Robespierre, pour le bicentenaire de la Révolution et rencontrent pendant leur périple un professeur de l'Université de Lille, spécialiste de la Révolution française. Jeudi 25 avril, il y aura la réunion mensuelle des objecteurs de croissance 62. Ça se passe au LAG, le lieu autogéré de Liévin, avenue Jean Jaurès, dans cette même ville, de 19h à 20h30. Vendredi 26 avril, l'état du mal-logement en France. La Fondation Abbé Pierre présente son 24e rapport sur l'état du mal-logement en France. Donc c'est le vendredi 26 avril, le matin, il y aura de 9h30 à 12h une présentation de ce rapport et un échange avec la salle, et l'après-midi, de 14h à 16h30, des ateliers participatifs. Ça se passe à la CAL, la communauté d'agglomération Lens-Liévin, au 6 rue Lavoisier à Lens. Toujours le vendredi 26 avril, au pied du Bossu, un one-man show citoyen par Fred Dubonnet. Quand Lucien Kabowski arrive à Méricourt, il cherche un travail. De fil en aiguille, il finit par trouver un poste dans une friterie. Et là, ça cause. Une chef d'entreprise, une infirmière syndicaliste, un cinquantenaire ouvrier bougon, une femme au foyer et un jeune handicapé discutent de politique, de pouvoir d'achat, d'internet, de notre époque. Et puis, un événement va les obliger à se positionner. Cette pièce au pied du Bossu sera représentée à 19h à l'espace culturel Lagarde de Méricourt le vendredi 26 avril. Donc c'est gratuit, mais par contre sur réservation au 03 99 83, je me suis trompé, 03 91 83 14 85. 03 91 83 14 85. Samedi 27 avril, nous reviendrons là-dessus, il y aura une manifestation Ensemble, debout pour le vivant. Pierre a oublié de couper son téléphone portable en même temps, j'ai oublié de lui dire de le faire. Donc il y aura en réalité une manifestation festive avec 4 marches à Arras qui vont converger. Donc plusieurs départs, l'un de la mairie de Saint-Laurent-Blangy, l'autre de Cité Nature, encore un du monument rue des Fusillés et encore un autre du jardin d'Urillet. Convergence vers la place Foch, donc celle de la gare, à 15h30, puis une déambulation dans les rues d'Arras pour arriver à 16h à la place des Héros. Samedi 27 avril toujours, Terre de Liens fête ses 10 ans. 10 ans en Nord-Pas-de-Calais pour un foncier agricole accessible à des dizaines de paysans souhaitant s'installer. Et c'est pas fini. Table ronde, marché de producteurs, spectacle et moments festifs. C'est à partir de 14h30 et jusque dans la soirée à la maison Stéphane Essel de Lille au 235 boulevard Paul Painlevé. Samedi 27 avril, Gaston Couté, un poète pour aujourd'hui. De 19h30 à 20h30, il y aura un spectacle commenté à Arras sous le grand chapiteau dans le cadre des animations Ensemble, debout pour le vivant. Et enfin, toute la semaine, il y aura des projections du film « Je veux du soleil », le film de Gilles Perret et de François Ruffin, au cinéma Les Étoiles de Bruay-la-Buissière. Les horaires, samedi 20 à 16h30, dimanche 21 à 18h30, lundi 22 à 16h30, mardi 23 à 20h30, mercredi 24 à 18h30, vendredi 26 à 14h30 et 20h30. Si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, ne vous en faites pas. Toutes ces informations sont disponibles sur notre site internet. Dans le menu, il suffit d'aller sur le blog des adhérents. Un petit peu d'actualité à présent. L'actualité cette semaine a été particulièrement riche et aujourd'hui, dans ce micro-rebelle, on va se contenter d'en citer quelques aspects marquants. Tout d'abord, la grève des hôpitaux aux urgences de Paris, qui prolonge la grève entamée à l'hôpital Saint-Antoine. L'hôpital en France est malade, on l'a déjà évoqué concernant l'hôpital de Lens, mais malheureusement, ça n'est pas une spécificité locale. Personnel insuffisant et mal payé, horaires incompatibles avec la vie familiale, fermeture de services, agression de personnel, etc. En fait, c'est à l'ensemble des services des hôpitaux, de l'ensemble des hôpitaux que la grève devrait s'étendre, tant la situation est inacceptable. À l'étranger, c'est le Soudan que nous avons choisi d'évoquer. Le dictateur Omar el-Béchir a donc été écarté par l'armée après plusieurs mois de manifestations et des centaines de tués. Pour autant, la mise en place d'un régime contrôlé par l'armée n'est sans doute pas la garantie d'une amélioration des conditions de vie de la population. Aujourd'hui, les manifestants et manifestantes occupent toujours la rue. C'est sans doute de ce côté-là qu'est la perspective d'avenir la plus prometteuse, du côté de la prise en main par l'ensemble de la population de tous les aspects de la vie des gens, et non pas de leur confiscation par un pouvoir armé. On reste en Afrique, avec une nouvelle qui n'a malheureusement pas été très commentée dans les médias français. C'est au Yémen, un pays de moins de 30 millions d'habitants, déchiré par une guerre de plusieurs années, impliquant des milices tribales, des troupes gouvernementales, des rebelles. Cette semaine, on a appris que ce sont les ventes d'armes françaises qui sont le carburant de ces conflits. En clair, le business français des armes tue au Yémen. Mais restons pragmatiques. Business is business et l'argent n'a pas d'odeur, y compris quand il a le goût du sang. C'est ce qu'ont bien compris nos dirigeants, qui affirment en toute hypocrisie, les autorités françaises n'avaient pas connaissance de victimes civiles liées à l'utilisation de ces armes. Et puis enfin, dans l'actu, il y a l'événement auquel vous n'avez pas pu échapper, l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Rassurez-vous, on ne va pas vous refaire le film de l'effondrement de la flèche de Notre-Dame, ni inviter un spécialiste prêt à intervenir avec des sanglots dans la voix, ni vous solliciter pour mettre la main au porte-monnaie. Ceci étant, il faut bien reconnaître que cet événement est fort instructif de l'état de notre société, et particulièrement de nos dirigeants. Il y a tout d'abord la récupération de cet incendie pour enrôler l'ensemble de la population derrière la fameuse unité nationale. On efface les conflits sociaux, les gilets jaunes c'est fini, la malvie on n'y pense plus, les agressions contre les travailleurs et travailleuses, les retraités ça n'existe plus, la répression et la loi anti-casseurs on oublie. Ce qui est à l'ordre du jour c'est la nation française et l'unité nationale. Pas sûr que ce tour de passe-passe fasse illusion très longtemps. Il est probable que assez rapidement, l'ensemble de ces conflits se rappelle au bon souvenir de nos gouvernants. Et puis, à propos de l'unité nationale, de la nation française, rappelons qu'au moment de la construction de la cathédrale Notre-Dame de Paris, il y a plusieurs siècles, la nation, c'est un concept qui n'avait aucune réalité. La nation, ça n'existait pas. Alors aujourd'hui, faire appel à l'unité nationale derrière Notre-Dame de Paris, c'est quand même sacrément opportuniste ou politicien. Et puis, il y a tout cet argent qui dégouline par centaines de millions d'euros, pour les réparations à venir. Pourtant, on nous avait expliqué il n'y a pas si longtemps que de l'argent il n'y en avait pas. Au moins, on se rend compte concrètement de qui sont les détenteurs de grosses fortunes. Pinault, 100 millions, Total, 100 millions, Arnault, 200 millions. Et d'autres annoncent du même ordre. Les Pinault, les Total, les Arnault, qui sont-ils? Ce sont des grands patrons, des grandes entreprises qui ont bâti leur fortune sur l'exploitation des travailleurs et travailleuses. En système capitaliste, ce sont les travailleurs et travailleuses qui créent de la valeur, de la richesse, et ce sont les patrons, les actionnaires qui empochent les dividendes issus de ces richesses. Alors faut-il s'extasier de la générosité de ces riches patrons, ou au contraire faut-il ouvrir les yeux et lutter pour remettre tout ça en bon ordre? Au moins, l'incendie de Notre-Dame de Paris offre-t-il la possibilité de nous interroger sur notre système économique qui marche sur la tête? Il y a encore de nombreux points fort instructifs que nous pourrions relever à propos de cet incendie. La couverture médiatique, les déductions fiscales, la récupération politique, etc. On va néanmoins s'arrêter pour aujourd'hui. À présent, dans la presse. On va commencer par cet article de La Voix du Nord avec ce titre « Maurice Pierrard nous a quittés ». Extrait de l'article. Maurice Pierrard, président fondateur de L'Euphorie Environnement, est décédé samedi à 89 ans. L'association est de tous les combats en matière environnementale, à L'Euphorie et au-delà. Ligne THT, aménagement de la friche renard, Maurice Pierrard savait taper du poing sur la table. Ironie de l'histoire, c'est au moment où la ligne THT Avelin-Gavrel entre dans sa phase concrète que l'un de ses opposants les plus farouches s'en va. Alors nous profitons de la présence avec nous ce soir de Pierre Rose, qui a bien connu Maurice Pirard, pour une courte évocation de ce qu'était Maurice et de ses engagements.
Oui, merci, parce que effectivement, c'était un grand monsieur qui est décédé donc le 13 avril. C'est difficile de résumer toute son activité. Il a été de tous les combats et il s'est battu avec ses armes parce qu'il était âgé, donc il ne pouvait pas se déplacer. Mais il s'est battu sur Bure, sur l'endroit où on veut enfouir les déchets radioactifs. Il s'est battu également, il a donné de l'argent pour permettre à des personnes d'aller à Notre-Dame-des-Landes, etc. Donc il faisait partie de ceux qui se battaient continuellement, qui poussaient les gens, même d'un certain âge, à aller au combat sur ces problèmes environnementaux. La première de ses actions au niveau de son association, c'est simplement, ils sont allés en Vallée d'Aspe en 1992, donc dans les Pyrénées-Atlantiques, pour lutter contre un projet autoroutier. Alors effectivement, on a parlé de la THT. Récemment, il s'est battu également, il était sur le combat des compteurs communicants. Et donc, alors ce qu'il a dit dans sa dernière réunion Assemblée Générale du 25 novembre, c'est-à-dire 8 jours après le début des Gilets jaunes, je vais en parler tout à l'heure, la menace climatique est aujourd'hui la plus urgente de toutes, tandis que se multiplient ouragans, pluies diluviennes, inondations, sécheresses, etc. Nous avions pris conscience déjà de certains impératifs, tels que le tri des déchets, les économies d'électricité, de carburant, l'abandon des pesticides, on y reviendra tout à l'heure évidemment. En 1974, il parlait de René Dumont, qui en 1974 a été candidat à la présidence de la République et qui avait tiré la sonnette d'alarme sur la consommation excessive d'énergie fossile. Tout ça, je cite ce qu'il a dit, hein. C'est pas moi qui ai inventé tout ça. Que de temps perdu. Il faut en arriver à l'urgence absolue pour que se concrétise la colère citoyenne. Ce qui n'émeut qu'en parole nos gouvernants, qui malgré toutes les promesses ne respectent rien, ni la COP21, ni la COP24, n'apportant rien de concret lors de tous ces sommets. Comme des automates, ils se situent dans la droite ligne de la politique productiviste des gouvernements antérieurs, concédant quelques mesurettes symboliques en faveur de l'environnement, tel le prix des carburants, qui a déclenché la colère des Gilets jaunes, symptomatique d'un malaise beaucoup plus profond. Et on continuera à maltraiter la terre, etc. Bon, donc lui, il était pour pour qu'advienne la révolution citoyenne. À défaut, bonjour les dégâts, comme cadeau de bienvenue à nos descendants. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a marqué son époque, sa ville et tout ça, et qui est parti. Il y a de la suite derrière l'association, mais c'est tout de même quelque chose d'important, il me semble.
Merci Pierre pour cet hommage à Maurice Pirard. On continue donc cette revue de presse, toujours dans la Voix du Nord, avec ce titre. Les Français acceptent de moins en moins les inégalités de revenus. Il s'agit du baromètre du service statistique des ministères du Travail et de la Santé publié cette semaine. Une bonne occasion de livrer quelques indicateurs suivants que nous avons extraits de l'article du journal. La principale tendance semble économique. Pour 92% des Français, il faudrait augmenter le SMIC, une proportion en hausse par rapport à 2017, 88%. Les inégalités commencent à peser lourd dans la mentalité des Français. La moitié des personnes interrogées pensent, en outre, que les ouvriers non qualifiés devraient gagner 25% de plus et les PDG des grandes entreprises françaises 40% de moins. L'image du système de sécurité sociale s'est dégradée entre 2017 et 2018. 62% des sondés estiment qu'il fournit un niveau de protection suffisant, un chiffre en recul de 11 points par rapport à 2017. Toujours selon ce rapport, 78% des personnes interrogées s'opposent aux baisses des allocations logement, soit des proportions en hausse de 5 à 7 points en un an. Enfin, selon le baromètre, la perception des Français de leur propre situation se dégrade. Fin 2018, 48% des Français se disent pessimistes pour leur avenir. Ils étaient 41% fin 2017. Quelques nouvelles du côté du mouvement des Gilets jaunes à présent. La semaine dernière, lors de notre dernière hebdo, nous avons évoqué l'Assemblée générale des Assemblées générales qui s'est tenue à Saint-Nazaire avec des représentants et représentantes des groupes Gilets jaunes de toute la France. Il nous semble en effet important d'évoquer les initiatives conjointes et parfois convergentes qui se tiennent au sein du mouvement des Gilets jaunes. Cette semaine, un petit peu dans le même registre, La Voix du Nord évoque la participation des Gilets jaunes de Lens-Liévin à la manifestation lilloise. Ils sont partis à pied avec l'idée de rencontrer d'autres groupes. Extrait. Rendez-vous était donné à 5h30 du matin au cinéma Pâté de Liévin. Le groupe de Gilets jaunes de Lens-Liévin a mis plusieurs heures pour rejoindre la manifestation lilloise. Nous avons fait une pause à Seclin, où nous avons été rejoints par le groupe de Tourcoing et accueillis par la CGT qui nous a offert du café et des gâteaux, indique un des membres. Nous n'avons pas eu de soucis particuliers pour manifester, mais on a dû essuyer une répression policière habituelle. Maintenant, il y a eu du gazage et quelques interpellations. Actualité de nos villes et de nos villages maintenant, avec cet article titré « Le dispositif voisin vigilant entre en action ». Ça se passe à Aix-Noulette, donc juste à côté de Liévin, extrait de la Voie du Nord. Chaque habitant pourra s'inscrire sur le site afin d'agir sous son identité, un préalable indispensable pour être en lien avec ses voisins et la mairie, et alerté par SMS en cas d'activité inhabituelle. L'inscription est gratuite. De son côté, la mairie gère l'ensemble. C'est notamment elle qui recevra les alertes envoyées par les habitants. Coût annuel pour la commune, 1200 euros, plus 525 euros pour l'achat de 7 nouveaux panneaux homologués. Selon le ministère de l'Intérieur, voisins vigilants entraînerait une baisse de 20 à 40% des cambriolages dans les quartiers placés sous le dispositif. Fin de citation. Évidemment, on n'accordera pas trop de crédit aux statistiques, pas très précises, 20 à 40% de baisse des cambriolages, du ministère de l'Intérieur. On peut imaginer que, comme bon nombre de statistiques policières, elles servent davantage à justifier les initiatives soutenues par ce ministère qu'à refléter la réalité. Ceci étant, il est vrai que ce dispositif voisin vigilant semble attirer de plus en plus de collectivités. On peut d'ailleurs regretter que des personnes de nos quartiers y trouvent une certaine satisfaction et se sentent l'âme de justicier et de défenseur du bon droit. Tout ça donne matière à réfléchir et à se poser des questions. Au sein de nos quartiers, dans nos villes, que peut-on imaginer comme vie collective, qui dépasse et de loin la simple inscription individuelle auprès de la mairie pour surveiller les abords ? Sans doute que le mouvement des Gilets jaunes sur les ronds-points ou sur les péages nous ouvre la voie. On y a vu en effet des groupes de personnes qui commencent à se parler, à s'organiser ensemble et à imaginer une autre vie collective, bien loin des initiatives de surveillance individuelle. Rappelons entre parenthèses concernant la chouette vie sur les ronds-points que le film « Je veux du soleil » dont nous avons parlé la semaine dernière est tout à fait éclairant à ce sujet. Et puis, il y a aussi nos reportages à Micro-Rebelle concernant les Gilets jaunes disponibles sur notre site. Enfin, une nouvelle assez affligeante, cette brève dans la Voix du Nord, homophobie, le RC Lens promet des mesures. Affligeant en été, en effet, nous citons le journal, le collectif Rouge Direct, qui lutte contre l'homophobie dans le milieu sportif, s'est indigné de chants entendus vendredi dans le COP 100 et or lors du derby entre Lens et Valenciennes. Sur les réseaux sociaux, le collectif a dévoilé une vidéo dans laquelle on entend des propos injurieux. Fin de citation. On se contentera de commenter simplement en évoquant la culture viriliste qui domine dans certains milieux sportifs et qui ne peut alors que déraper du côté de l'homophobie. On va maintenant faire une petite pause musicale parce qu'effectivement j'ai beaucoup parlé. On va écouter un groupe brésilien de Rio de Janeiro, découvert grâce au site Zik Libre en Bible, qui propose de la musique libre de droit. Alors là on est dans la pop-rock psychédélique. Le groupe c'est Orua et le titre Escola das Ruas. Excusez mon accent portugo-brésilien à couper au couteau.
Thank you.
Vous êtes donc toujours à l'écoute de Micro Rebelle Hebdo, magazine des luttes sociales, magazine des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et parfois au-delà. Nous sommes avec Thérèse Carello, qui est présidente de Colère du Présent. Colère du Présent, c'est une association de promotion de l'écriture et de l'expression populaire. C'est comme ça qu'on le résume.
Promotion de l'écriture, de la lecture et notamment de la littérature, notamment d'expression populaire et de critique sociale.
Et avec Pierre Rose, militant multicarte et cumulard, tu nous disais hors antenne.
Oui, pour l'instant, la bataille qu'on essaye de mener, c'est par rapport à tout ce qui est compteur communicant dont on a parlé tout à l'heure.
Oui, avec le collectif ACAD,
ouais.
Anti-compteur communicant Artois-Douaisy.
Tout à fait.
Voilà, alors on est là pour parler de l'actualité militante dans le Pas-de-Calais, puisque débute une semaine de mobilisation pour le vivant. Et c'est vrai qu'on entend de plus en plus parler de défense du vivant pour regrouper, là-dessous, sous ce terme, les luttes écologistes, les luttes contre l'exploitation industrielle des animaux et les luttes à caractère social et à caractère humanitaire, notamment avec l'urgence ou les situations d'urgence que peuvent vivre, par exemple, les migrants et les migrantes. Alors, est-ce qu'on peut commencer par en dire plus par cette idée de défense du vivant ?
Oui, ben, je vais peut-être reprendre la parole pour expliquer un petit peu la genèse. Le Salon du Livre qui est proposé chaque année le 1er mai par Colère du Présent a chaque année un thème. Et l'an dernier, le thème, c'était « Exploiter le vivant ». Animal, végétal et bien sûr humain. Et à cette occasion, en amont du salon du 1er mai, Colère du Présent avait invité quelques associations, notamment Novicem, Desicamp, Eve et d'autres.
Oui, qui sont des associations, pour le coup, qui luttent contre des grands projets industriels,
la ferme du Mille-Vaches, ouais. Je ne sais pas combien de cochons, etc. Et donc, ces collectifs s'étant rencontrés, ils ont trouvé que ce serait intéressant d'unir un peu leurs propositions et leurs forces, et de créer un collectif. Et comme ça se passait le matin, les gens étaient un peu ébouriffés, et ce collectif s'est appelé le collectif des ébouriffés. Et ils avaient décidé à ce moment-là de se retrouver une année plus tard pour donner un grand coup de poing sur la table, et notamment en organisant des marches. Et c'est donc ce qui va se passer toute la semaine prochaine. Donc Pierre, tu veux peut-être parler de ce qui va se passer dès les... Du 21 au 28.
20, ouais. Oui, alors du 21 au 26, c'est ce qu'on appelle la randonnée des coquelicots. Cette randonnée est organisée à l'initiative de la Fédération française de randonnée pédestre des Hauts-de-France. Donc c'est tout de même un patronage d'autant plus intéressant qu'on a affaire à des animateurs qui connaissent la région et qui vont effectivement non seulement permettre de nous instruire, mais également qui vont permettre à différentes personnes de savoir, qui n'est pas sans, leur permettre de connaître un petit peu ce qui va se passer à Arras en fin de semaine prochaine. Et donc, ça partait de l'idée justement du collectif Eve, qui s'occupe de la porcherie de Ringuem près de Saint-Omer. Et l'idée était de partir de Saint-Omer en direction d'Arras. Donc ça s'est fait d'une certaine façon, c'est-à-dire que ce sont des balades autour de différentes communes. Alors la première, c'est Delette, près de Saint-Omer. Ensuite, c'est Burbure. Ça, c'est le 21. Le 22, Burbure. Le 23, c'est Bruay-la-Buissière. Le 24, c'est Aulin, que tout le monde connaît un peu dans le secteur. Ensuite, le 25, c'est autour de Notre-Dame-de-Lorette. Et enfin, le 26, c'est à Villers-aux-Bois. Et donc, tout ça, c'est l'après-midi. Il faut s'inscrire, d'ailleurs, parce que si jamais il y a trop de personnes, il y aura des refus, parce que les animateurs ne veulent pas faire une balade pour le plaisir de faire une balade, mais que ce soit instructif dans les deux sens.
Ouais, et chaque jour, il y a un thème.
Il y a un thème à partir de l'activité qui existe. Et donc, c'est environ 11-12 kilomètres à peu près de balade, mais de balade très légère. Hein. Donc, il ne faut pas s'en faire. Et l'apothéose, évidemment, ça va être le 27 à Arras. Et ces différentes balades vont être intéressantes dans la mesure où, justement, elles permettent de connaître mieux notre région, de faire voir un petit peu toutes les problématiques. Et ça, c'est indispensable pour pouvoir aboutir à ce qu'on appelle l'activité du samedi et du dimanche.
Alors, c'est la randonnée des coquelicots. Il y a le mouvement aussi, nous voulons des coquelicots. J'imagine que c'est en lien. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça symbolise, les coquelicots?
Alors, ça symbolise, en fait, pour nous, ça symbolise le fait que la nature reprend des droits. C'est-à-dire qu'il faut se passer de cette agro-industrie qui est tout de même scandaleuse parce qu'elle est en train de stériliser la terre. Et on est dans une situation où si on ne fait pas grand-chose rapidement, on n'aura plus de coquelicots, comme on n'aura plus d'un certain nombre d'espèces et tout ça. Donc c'est extrêmement utile. De dire, et ça c'est ça fait partie des idées de départ d'un gars qui est aussi quelqu'un de remarquable qui s'appelle Fabrice Nicolino et qui a été victime de l'attentat du journal satirique dont j'ai oublié le nom,
Charlie Hebdo.
Et en 2015, et il s'en est sorti, mais alors il est sorti bien blessé. Donc lui, c'est quelque chose qui correspond à une certaine vie, à une certaine envie de vivre.
Alors tu l'as dit, il y aura tout au long de la semaine prochaine, à partir de dimanche, des étapes dans tout le Pas-de-Calais avec ces marches, ces balades instructives, avec des animations autour de la nature, animées donc par la Fédération française
des randonnées pédestres.
Merci.
Hauts-de-France en plus.
Des Hauts-de-France. Et ouais. La conclusion, parce que là, ce n'est pas une manifestation.
Non.
C'est plutôt.
C'est quelque chose à la fois
pédagogique.
Pédagogique, oui, tout à fait. Et en même temps, qui essaye d'inspirer, de pousser les gens à venir, notamment à Arras, samedi et dimanche.
Voilà, parce que ça se conclut avec samedi, la grande journée dite manifestive, le 27 avril à Arras. Est-ce qu'on peut en dire plus sur cette journée-là? Cette fois-ci, c'est le collectif Ensemble, Debout pour le Vivant.
Voilà, alors en fait, c'est les ébouriffés. Il va y avoir aussi le collectif Arageois pour le Climat. En fait, il y a tellement d'associations maintenant qui convergent. Puisque de toute façon, nos objectifs, ce sont les mêmes. Hein. Donc, qui organise cette journée. Et donc, l'idée, c'est qu'il y ait quatre marches qui partent de quatre coins d'Arras. Donc, vous les avez signalées tout à l'heure. Hein, de la Citadelle, de la Cité Nature, du Parc du Rillet et de Saint-Laurent-Blangy. Ces quatre manifestations, ces quatre marches vont converger vers la gare. Et ensuite, nous irons jusque la place des Héros, où là, nous ferons un day-in. Alors, un day-in, il s'agit de s'allonger, simuler la mort. Hein, que deviendrons-nous si nous ne faisons rien pour notre planète? Et dans un moment très solennel, des lecteurs vont égrener des chiffres pour indiquer le nombre d'espèces, d'insectes, d'oiseaux, d'animaux, mais aussi de migrants, morts en Méditerranée, de toutes les espèces que le dérèglement climatique a malheureusement fait succomber. Et après, il y aura, on termine le day-in par le grand cri du vivant, parce que nous sommes encore là, nous ne sommes pas morts, et nous voulons continuer à lutter. Et ensuite, les associations auront un chapiteau, toutes les associations dont on vous a parlé tout à l'heure, auront un chapiteau sur la Grand Place d'Arras, pour parler de leur association. Et puis, ça se terminera par une soirée plus ou moins festive, avec concerts, discussions, voilà.
Oui,
Pierre, tu as des choses à ajouter.
Oui, il faut savoir que ces rassemblements ne concernent pas que la région Nord-Pas-de-Calais. Ça concerne véritablement les Hauts-de-France. C'est-à-dire qu'il y a... Il y a une envie de la part de la Somme en particulier, avec Amiens, avec la boîte sans projet, qui va venir en bus. Ça va partir d'Amiens, ça va partir de ville également. Et non seulement ces bus sont prévus et seront remplis, évidemment grâce à Novicène en particulier, mais pas seulement. mais également avec des gilets jaunes qui ont décidé de venir. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important, à la fois dans le rassemblement, la convergence des collectifs climat de la région, que ce soit Arras, Lens, Lille et également Dunkerque. Donc ces différentes structures ont appelé à ce rassemblement pour que ce soit une première étape. C'est-à-dire que ça nous paraît très important à la fois de connaître plus que notre région Nord-Pas-de-Calais, qu'on connaissait avant, mais on était simplement deux départements. Maintenant, on a la Somme qui va venir, et on a évidemment des six camps, c'est-à-dire c'est dans l'Oise. Donc c'est vraiment quelque chose qui correspond à cette région qui a été créée en 2016 et pour laquelle on a beaucoup de projets. D'autant plus que... Alors ce qui est beaucoup, aussi très important, c'est que ce n'est pas seulement des secteurs de notre région qui appellent. Il y a par exemple le Triangle des Gonesses, il y a un projet faramineux créé de toutes pièces pour l'instant par Auchan et qui est quelque chose de scandaleux au niveau des projets inutiles, qui pour l'instant est assez controversé. Eh bien, les personnes qui viennent de cette région vont venir ici nous soutenir. Également, il y a des soutiens de la part de collectifs qui se battent actuellement à Bure, parce que là, il faut savoir que la situation est dramatique. C'est-à-dire qu'il y a une répression extraordinaire de la part du pouvoir en place pour pouvoir museler un peu toutes les oppositions par rapport à cet enfouissement de nucléaire. Et on n'en parle pas dans la presse. Donc c'est pour ça que c'est très important d'aller dans ce sens-là, de soutenir ces militants, de soutenir cette population, parce qu'elle en prend plein la figure, avec des perquisitions, des contrôles d'identité continuels, des vexations, etc.
Alors, on a l'impression que là, on s'attend à une manif sans précédent à Arras.
Alors, on le souhaite, on espère quand même qu'il va y avoir... on sent, de toute façon, à travers nos réunions, à travers les diverses marches que nous avons déjà programmé à Arras et à Liévin, Lens-Liévin récemment. La première, il y avait 200 personnes. La deuxième, il y avait 400 personnes. La troisième, à Arras, il y avait plus de 1000 personnes. Donc on voit quand même qu'il y a une prise de conscience de tous, que le climat, c'est l'affaire de tous, bien entendu, qu'il y a une urgence, que le basculement climatique est très proche, et que même si on a voulu nous endormir avec en essayant de mettre la discorde entre les gilets jaunes, par exemple, et les gens qui réfléchissaient à la transition énergétique et au dérèglement climatique, on se rend compte que nos combats sont les mêmes et qu'il n'y a aucune différence. Les gilets jaunes n'ont jamais dit qu'ils voulaient que la planète meure. Ils ont dit qu'ils ne voulaient pas être les seuls à payer. Je pense qu'il y a une très très grosse différence. Et notre adversaire commun, il me semble que c'est le capitalisme.
Représentés même politiquement par des personnes qui ont été dans des grands lobbies industriels ou qui ont travaillé pour ces industries. Donc voilà, c'était juste une petite précision. En passant, ça fait deux fois qu'on évoque les gilets jaunes. Tu veux préciser
Mettent en avant aussi la problématique d'un président qui s'appelle Macron et qui est président des pollueurs, avec des affiches remarquables aujourd'hui. On en parle et c'est extrêmement important.
Je voulais revenir sur... Parce que ça fait deux fois qu'on parle des gilets jaunes. Je me demandais si cette randonnée des coquelicots qui aura lieu la semaine prochaine, s'il a été question qu'elle puisse passer par des ronds-points, par exemple, pour essayer de rameuter aussi les gilets jaunes jusqu'à Arras sur, là, une manifestation plutôt d'ordre... peut-être pas écologique, vu que c'est vraiment le but d'essayer d'élargir, mais...
Là, je ne pense pas, parce que vraiment, les marches se situent, par exemple, la première... Chaque marche a sa dominante, parce que je vous ai dit, c'est un petit peu cet aspect pédagogique d'expliquer la nature et les dangers qu'elle encourt. Donc, il y a toujours une dominante de nature et paysage, requalification du bassin minier, la nature s'invite en ville, etc. Donc, je ne pense pas qu'elle passe par des ronds-points. Mais les gilets jaunes, de toute façon, seront présents samedi à la marche, que ce soit les gilets jaunes que l'on rencontre à Arras, à Amiens, etc. Donc, ils sont toujours les bienvenus, parce que de toute façon, je pense que nos combats, même si on n'utilise pas les mêmes mots, sont exactement les mêmes.
Vas-y Pierre.
Ça n'est pas, il faut surtout se mettre d'accord sur le fait que ce n'est pas de la récupération qu'on essaye d'avoir par rapport aux gilets jaunes. Hein. C'est-à-dire qu'on est bien conscient qu'il y a, et chacun dans son coin est conscient qu'il y a un certain nombre de problèmes de justice sociale, qu'il y a un certain nombre de problèmes de, écologiques, et qu'il faut essayer de rassembler. C'est un peu ça notre objectif. C'est pour ça que le terme qu'a utilisé Thérèse tout à l'heure pour dire « ensemble, debout pour le vivant », le terme ensemble a une certaine importance et c'est le catalyseur.
Alors là, ce sera ensemble pour manifester. À Micro-Rebelle, on aime bien essayer de réfléchir aussi sur les formes d'organisation collective, sur les formes de manifestation. Alors je pose une question qui titille un peu, mais c'est vrai que dans les manifestations plutôt à tendance écologiste, même si maintenant on en arrive à peut-être l'écologie sociale, il y a des formes d'organisation, de manifestation qui sont souvent la marche, je sais pas, la pétition, l'interpellation des pouvoirs publics, travailler à la prise de conscience individuelle et collective. Est-ce que, d'après vous, ça
suffit?
Pas que ça suffit, mais ou en tout cas, pas ça suffit pour qu'il y ait une grande révolution ou un grand chambardement, mais à la construction d'un rapport de force.
Alors, ça, écoutez, ma question. Nous avons beaucoup discuté de tout ça entre nous dans les différents collectifs, les ébouriffés, le collectif Arrache-Voix pour le climat. Et c'est vrai que pour l'instant, on fait des marches, on organise des marches très amusantes, très drôles, très joyeuses, avec de la musique. Et puis on se dit, on ne va pas en rester là quand même. Hein, maintenant qu'on est organisé, qu'on est structuré, il faut aller un petit peu au-delà. On a été gentils jusque-là, mais il faut aller vite maintenant, on sait bien. Pour le climat, il faut aller très vite. Donc, je pense qu'après, on passera à des étapes peut-être un peu plus percutantes, on va dire, pour ne pas employer des termes qui fâchent. Et justement, si je pense que la journée de dimanche du 28, ce forum social va nous permettre de réfléchir à comment nous structurer, comment militer, comment unir nos forces et comment faire pour aller beaucoup plus loin.
Alors, oui, vas-y, si tu veux rajouter quelque chose, Pierre.
Oui, et surtout, dès le départ, comment se connaître? C'est-à-dire que je pense que ça me paraît très important que les associations qui ne se connaissent pas entre elles aient un regard sur ce que font telle et telle chose, telle et telle structure. Et ça me paraît très important, se connaître, s'écouter. Et là, on peut prendre des leçons un petit peu de ce que font les Gilets jaunes, parce que tu en as parlé tout à l'heure avec Saint-Nazaire et puis avant avec Commercy. Il y a des regroupements, c'est-à-dire des gens qui commencent à réfléchir sur comment faire, comment agir différemment après. Parce que c'est pas le tout de faire des démarches et tout ça. C'est intéressant, on risque d'avoir du beau temps, donc on risque d'avoir du monde. Mais si on ne fait que ça, c'est pas ça qui va faire changer à la fois le pouvoir étatique, mais surtout le pouvoir financier. Donc ça veut dire qu'il y a à remettre en cause les formes que l'on peut avoir, et surtout essayer de montrer que c'est pas par des marches qu'on réussira, mais c'est un début. Et c'est à partir de là qu'on enclenchera et on sera d'autant plus actif qu'il y aura des personnes qui seront conscientes des problèmes et qui essaieront d'agir collectivement. C'est-à-dire sans mettre en avant telle ou telle structure, mettre en avant le collectif, mettre en avant l'objectif.
Oui, et puis Oui, vas-y.
Oui, et puis je pense qu'après, il faut forcément aller plus loin. On sait très bien que maintenant, vous en avez parlé tout à l'heure, ce sont les multinationales, c'est le fric, c'est les actionnaires. Maintenant, on ne parle plus que de ça. C'est augmenter un pouvoir d'achat. Déjà, le mot pouvoir, c'est horrible. Moi, je préférais que le pouvoir de vivre dignement et sainement pour tous. Donc, c'est tout un système qu'il faut revoir. C'est notre système actuel. Tout est basé sur la finance, sur le profit. Mais tant qu'on ira dans cette direction-là, les gens maintenant bossent, travaillent pour pouvoir consommer. Consommer à outrance. Et plus on consomme, bah bien sûr, plus il faut produire, plus on produit, plus on pollue. Donc, évidemment, il y a toutes les bonnes petites volontés qui vont trier leurs déchets, qui vont faire des marches. C'est déjà un premier pas, mais ça ne suffit pas, comme disait le second, Ça ne suffit pas. Je pense qu'il y a vraiment... bon, je ne veux pas être trop révolutionnaire, mais il faudrait faire table rase sur notre système de vie actuel et tous réfléchir, là. Il y a un danger. Il faut penser à nous, aux générations futures, et de se dire que le bonheur n'est pas dans les achats compulsifs. On peut être heureux autrement.
Oui, bon, on sait que Pierre est justement un adepte de la sobriété individuelle ou la simplicité volontaire aussi, voire collective. Justement, tu parles de système et j'avais une question à ce sujet parce que l'idée de vivant, ça renvoie à la dimension, ou en tout cas la défense du vivant ou la mise en danger du vivant, ça renvoie à la dimension totale de la destruction et donc à l'idée d'une compréhension systémique. Si je dis ça, c'est que ça renvoie à un système de domination qui est intégral. Et ce système, ça a un nom, le capitalisme, tu l'as dit. Donc une organisation économique qui est fondée sur la propriété privée en vue d'une maximisation des profits. Bon, j'essaye de faire vraiment synthétique. Les luttes écologistes, même quand elles deviennent des luttes pour le vivant, est-ce qu'elles ne manquent pas encore pour la plupart du temps la cible de ce point de vue-là? C'est-à-dire qu'on n'entend pas encore assez que la véritable écologie ou l'écologie radicale, et on est dans une situation d'urgence, doit être anticapitaliste. Et donc, c'est justement cette contestation du système qui permettrait de renverser un rapport de domination des êtres humains vis-à-vis des autres, à tout ce qui constitue l'altérité par rapport aux êtres humains, que ce soit les autres, la nature ou le vivant. Donc je reviens un peu à ma question pour être précis, c'est est-ce que l'écologie ou les luttes écologistes ne gagneraient pas à être davantage anticapitalistes ?
Je pense qu'effectivement, si on veut véritablement peser sur l'avenir de façon optimiste, de façon réaliste en plus, il faut partir de ce système capitaliste pour le détruire. C'est-à-dire que ça fait partie des mots qui expliquent pas mal de choses, à la fois quand on voit toute l'exploitation. Je prends un exemple, il n'y a jamais eu autant, en 2018, d'extraction d'énergie fossile. Alors que la COP21 avait dit qu'il fallait diminuer cette extraction d'énergie fossile. Donc on est en pleine contradiction. Pourquoi on est en pleine contradiction? Parce que ce qui s'est passé à la COP21, c'est simplement des souhaits de chefs d'État. Mais par derrière, ce sont les multinationales qui décident. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose qui est importante, c'est pour nous, c'est de changer de ce qu'on appelle de paradigme, c'est-à-dire de façon de penser. Ne pas raisonner comme la société le pense, c'est-à-dire de raisonner de façon individuelle, c'est-à-dire avec une tête, et derrière cette tête, tout le monde va suivre. C'est de faire en sorte que, c'est ce qu'on essaye de faire déjà au niveau des ébouriffés, c'est de faire en sorte que la plus petite organisation, les plus petites personnes, entre guillemets, quand je dis petite, c'est pas péjoratif, les plus petites personnes puissent s'exprimer. Parce qu'il y a des tas de choses à mettre en avant et des tas de choses à prendre comme initiative qui peuvent être prises justement à partir d'abord d'une parole qui est donnée, qui est permise et surtout qui est écoutée.
Peut-être une vraie démocratie alors.
Oui, c'est vrai qu'on a, c'est vrai que même dans ma description, j'ai un peu oublié ce côté politique aussi, oui. Qui est l'autre versant de la domination avec la démocratie bourgeoise.
Voilà, c'est ça.
Alors c'est vrai que c'est intéressant cette idée des ébouriffés avec ce collectif de collectifs, justement par rapport entre autres à cette question de l'anticapitalisme, ça pourrait être aussi la question de l'antispécisme par exemple, vu que il y a une lutte, il y a des gens, des collectifs de lutte contre l'exploitation industrielle des animaux. Moi je me demande, c'est vrai que ça a l'air tout à fait intéressant de pouvoir partager entre collectifs ces expériences de lutte, mais on sent qu'il doit y avoir des sujets quand même épineux. Comment ça se passe le consensus ou comment ça se passe le dissensus? Je trouve que c'est intéressant de pouvoir communiquer là-dessus.
Bah, dans ces collectifs, il y a évidemment des véganes, il y a des végétariens, il y a des gens qui mangent un bon roast beef. Mais je pense que comme le disait Pierre, c'est déjà de savoir s'écouter, se respecter et de ne pas être trop sectaire. Vous voyez, c'est ça qui est un petit peu, quand on milite, c'est d'accepter que tout le monde n'ait pas la même idée. Mais effectivement, on ne peut plus maintenant accepter que des animaux, qu'on soit carnivores ou pas, que des animaux subissent de telles souffrances pour avoir un beefsteak dans son assiette. Quoi. Ça, c'est pas possible. Donc, voilà, c'est aussi des choses auxquelles il faudra penser. Mais comme je vous disais, au niveau des collectifs, effectivement, qu'on n'a pas tous les mêmes idées, on n'a pas tous les mêmes priorités non plus. Les collectifs qui vont défendre les rivières ou qui vont lutter contre l'extraction des déchets, enfin des matières fossiles ou qui, contre l'enfouissement. Chacun a sa priorité. Déjà, quelquefois, un combat... ça provient du fait que, par exemple, on va avoir un méthaniseur à côté de chez soi et que ça va sentir. Vous voyez, donc quelquefois, on adhère à un collectif parce que, justement, on est les premiers à subir les nuisances. Mais je pense qu'entre citoyens de bonne foi et voulant agir pour la démocratie, on sait écouter les autres et de se dire tous les combats ont la même valeur et se rejoignent.
Oui, donc d'essayer de mettre de côté ses propres priorités. Enfin, ou ses propres priorités de lutte pour se regrouper sous une bannière commune. Est-ce qu'elle a été définie, cette bannière? Je veux dire, l'objectif des ébouriffés, c'est... Est-ce qu'il est, je sais pas, synthétisé ou clairement exprimé?
Alors, je dirais pas qu'il faut mettre de côté les différents objectifs des associations. Donc, je dirais qu'il faut tenir compte des différents objectifs pour pouvoir avancer, c'est-à-dire pour pouvoir comprendre d'une part la complexité des problèmes et d'autre part pour justement permettre à différentes personnes de s'approprier toutes les problématiques. Et donc à partir de là, on peut avoir ce qu'on appelle un consensus. À un moment donné, ce consensus, c'est pas nous qui allons le décider. C'est-à-dire que d'une part, il y aura ce qu'on appelle l'appel d'Arras qui sera solennel samedi. Mais justement, la réunion du lendemain, on ne sait pas ce que ça va donner. C'est-à-dire qu'on pense que ça va aboutir à un certain nombre de choses, mais surtout pour essayer d'agir, de continuer à agir dans l'avenir. Alors sur quelle base? Évidemment sur une base collective. Sur cette base-là, il y aura un consensus. Après, quels sont les critères qui seront mis en avant de façon prioritaire? Ça sera décidé. C'est-à-dire que c'est pas une tête pensante qui va donner ses idées. Point final. C'est-à-dire que on est vraiment dans la réflexion pour l'action.
Alors, il reste assez peu de temps. Est-ce qu'on peut parler justement de la journée du dimanche 28 avec le forum social?
Oui, mais enfin, c'est un petit peu ce que Pierre vient de dire, finalement. On espère avoir du monde. Il y aura certainement beaucoup de personnes qui auront été là présentes la veille, donc à cette marche. Et on se réunit pour réfléchir à ces questions qui semblent fondamentales. Pourquoi on se mobilise? Comment mener nos luttes collectivement, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, comment on peut progresser, quel type d'action on peut mettre en place. Et bien sûr, Pierre a tout à fait résumé en disant que ce n'est pas une personne qui va décider, c'est ensemble justement. Mais ce qu'on aimerait quand même, c'est quitter cette journée de forum avec des chantiers en tête, quoi. Voilà.
D'accord. Alors, on n'oublie pas que le 1er mai, il y aura bien évidemment le Salon du Livre d'Expression Populaire et de Critique Sociale qui est organisé par Colère du Présent. Oui. Voilà, et on rappelle que justement, le dernier Salon du Livre a permis la création de ce collectif, Les Ébouriffés. On essaiera d'en reparler la semaine prochaine, si tout
Avec
va bien.
Avec plaisir.
On essaye de faire un récapitulatif de tout ce qui va se passer avant de conclure cette émission. Donc, la randonnée des coquelicots qui commence dimanche jusqu'à vendredi. Alors, j'ai donné quelques-unes des dates et des contacts pour cette randonnée des coquelicots. Donc, je crois que c'était Sylvie Preux, non?
Je non, c'est Nicole Vandeville.
Nicole Vandeville, pardon.
Nicole Vandeville, tout collé, @hotmail.com.
Voilà, parce que
donc il faut réserver, donc.
Chacune des balades soumises à des réservations. Voilà. Pour des questions de gestion de groupe, parce qu'il y aura des animations par la Fédération des randonnées pédestres.
Et l'apothéose, on la voudrait le samedi, voilà. Avec les quatre marches dont tu as parlé tout à l'heure. ce qui permettra après de voir beaucoup plus sainement et de façon un peu plus objective ce qui va se passer le dimanche, parce que c'est évidemment ça n'est qu'un début. Hein.
Ça n'est qu'un début.
Continuons le combat.
Ça n'est qu'un début, mais pour cette émission, c'est la fin. Donc, je remercie Thérèse Chiarello, présidente de Colère du Présent, d'être venue dans nos studios. Et Pierre Rose, militant multicarte.
Merci de nous avoir acceptés.
Voilà, et qu'on espère revoir prochainement dans nos studios. On va terminer ce micro Rebelle Hebdo en musique. Je trouvais le titre de la musique intéressant, c'est The Wheel of Time. Voilà, Eila Nereo.
May my voice be strong and this step be light. May my learning come on this wheel of time. As a breath be took, may the lessons glide. Swiftly as a wind, gentle as a sigh. Hear it calling me home. Hear it calling me listening. Hear it calling my soul. Come and be my guide. Walking by my as a breath be taken, given, taken, given, calling me home.